Pour de la musique et de l'info, on écoute tous J'aime Radio.
En 2021, 122 femmes et 23 hommes ont été tués par leur partenaire ou ex-partenaire, et 14 enfants mineurs sont morts dans un contexte de violence au sein du couple.
Dans le cadre de la journée contre les violences faites aux femmes, deux élèves ont décidé d'organiser une conférence sur le sujet au sein du lycée Jean Moulin. Plusieurs associations en sont intervenues ainsi que des femmes victimes de violences qui ont témoigné de ce qu'elles ont vécu.
Nous sommes évidemment sensibles à un tel sujet et nos reporters ont couvert l'événement.
Nous sommes allés à la rencontre des organisateurs pour connaître leur motivation.
Pouvez-vous vous présenter ?
Ok, moi je m'appelle Mathilde Bretoux, je suis en première 3.
Ok, moi je m'appelle Quentin Lemaire, je suis en terminale STI 2D.
Comment avez-vous eu l'idée d'organiser une conférence sur ce sujet ?
Pour moi, c'est un sujet qui me touche beaucoup, que ce soit directement ou indirectement. J'ai été confrontée à ce sujet très rapidement, dès le collège. Je me suis rendu compte que les violences arrivaient dès le collège. On pense que ça arrive plus tard à l'âge adulte et tout ça, mais non. Je pense qu'il faut sensibiliser à ce sujet parce qu'on n'en parle pas. C'est hyper tabou dans cette société et voilà.
Moi, j'ai subi en partie l'influence des réseaux sociaux, puis je pense que c'est aussi une conséquence de mon éducation. Du coup, c'est un sujet qui me touche parce que je suis quelqu'un de sensible. Étant plus vieux que la moyenne des élèves de Jean Moulin, je me suis dit qu'il était temps d'utiliser du coup les atouts que j'avais, notamment le permis de conduire, pour aller prospecter en faveur d'une association et de faire éventuellement une intervention dans le lycée.
Quel est le but de cette conférence ?
Le but de cette conférence, c'est notamment de sensibiliser les plus jeunes ainsi que les plus vieux, pour non seulement du côté des plus vieux faire évoluer les mentalités, mais chez les plus jeunes du coup de non pas de proposer un déclic, mais de proposer une alternative à ce que pourraient être les relations inter-élèves, c'est-à-dire en gros d'éviter le modèle dominant-dominé, en faisant prendre conscience qu'il faut respecter son prochain et qu'il faut notamment agir, proposer un modèle d'action pour lorsqu'on voit une situation qui peut nous paraître injuste, tout simplement sensibiliser les élèves.
Moi, j'ai utilisé des mots très forts, mais on n'en a pas forcément conscience et on s'en rend pas forcément compte en tant que lycéen. Mais les violences conjugales, elles sont très présentes au lycée. J'en ai pas subi moi particulièrement, mais des amis et de mon entourage, oui. Et l'idée, c'est de sensibiliser les élèves, mais aussi les professeurs qui souhaiteraient y participer. Ça permet aussi de pouvoir en parler avec des adultes et pas rester bloqué.
Durant cette conférence, les victimes ont livré des témoignages forts sur les violences qu'elles ont subies. L'émotion dans la salle était palpable et voici quelques bribes.
On va d'abord vous parler, je pense, du processus de l'emprise. Vous exposez notre expérience à chacune qui risque d'être similaire. En tout cas, il y aura beaucoup de similitudes. Et après, on parlera des différentes sortes de violences qu'il y a dans les violences conjugales, qu'on a tous pu subir, en fait. À nous trois, on a tous pu, de toute manière. Du coup, moi je suis Justine, j'ai 31 ans. Moi j'ai rencontré mon ex-compagnon sur les réseaux sociaux. Il a très vite trouvé les mots pour m'amadouer et pour me mettre dans sa poche et me rendre belle et désirable pour pouvoir m'avoir. On a parlé pendant une semaine et après, dans la foulée, il s'est retrouvé à un match de basket à venir me voir jouer alors qu'on s'était jamais vu avant. Et en fait, dès le soir, il était chez moi, chez ma mère. Il m'a jamais lâché. Enfin, tout le temps de la relation qu'on a eue, il s'est mis avec moi dès le soir du match et il m'a pas lâché jusqu'au dernier soir. On s'est paxé au bout d'un mois pour rapprochement professionnel. Mais c'était son excuse, mais c'était aussi sa manière de très vite avoir de l'emprise sur moi. On a emménagé ensemble au bout de 3 mois. Entre-temps, on a eu 3 voyages qui justifiaient... c'est comme ça qui montrait son amour, c'est qu'il m'emmenait en voyage pour dire « t'as vu, je t'aime, je t'emmène partout et tout ». Mais derrière, c'est comme ça que ça a commencé, c'est comme ça qu'il est rentré dans ma vie. Du coup, moi, comme on a emménagé très vite ensemble, en plus de ça, c'est tombé juste avant le Covid, on a emménagé ensemble, le lendemain, il y avait confinement. Et vraiment, c'est pas une blague, c'est genre le lendemain, ils annonçaient confinement national. Moi, j'habitais en Alsace à ce moment-là et du coup, on était à côté de l'hôpital militaire. Donc ça a été très compliqué parce que monsieur était diabétique. Donc du coup, j'avais pas le droit d'aller travailler parce que je travaillais auprès de publics handicapés. Donc du coup, il avait peur que je ramène des maladies ou le Covid à la maison. Donc il m'a fait arrêter le travail. On a emménagé, du coup, comme on était en confinement, je pouvais pas aller voir ma famille. Moi, les FaceTime, j'ai pas connu ça. Enfin, tous les apéros, tout ça, j'avais pas le droit d'appeler mes copines, j'avais pas le droit de parler à qui que ce soit parce que c'était, c'était que lui qui avait le droit d'exister. Il contrôlait mon argent. Genre, tout ce qui sortait de mon compte, c'était contrôlé en centimes près. J'avais ma carte, j'avais possession de mes codes, mais c'est quand même lui qui décidait ce que j'avais le droit d'acheter ou pas. Juste avant le confinement, on est parti en voyage à Porto et il m'arrivait un truc assez incroyable, c'est que du coup, il a fait une crise suite à une montée de sucre, je sais plus maintenant, je suis plus dans le diabète, hyperglycémie. Donc monsieur s'est énervé contre moi, il s'est mis à m'insulter en pleine rue de Porto, et on parle pas de petites insultes, hein, j'étais une pute, une salope, à me hurler dessus, à me dire que j'étais qu'une merde, qu'il allait m'abandonner dans les rues de Porto, et c'est ce qu'il a fait. Donc il est parti avec la valise, mes papiers et les billets d'avion, donc, et il m'a dit qu'il me laisserait là et que je devais me démerder pour rentrer et qu'il n'en avait rien à foutre que je reste là et que je sois SDF et tout ça. Donc ça a été un peu... ça a été une demi-heure de stress intense parce que ben, je ne savais pas parler portugais. C'était ma plus grosse crainte, c'est que donc, à bout, je ne savais pas parler portugais. Donc je me suis mise à lui courir après dans les rues, tout ça. J'ai réussi à le rattraper. Le cheminement était un peu long. Enfin, il a fallu juste deux stratégies. Et pour se faire pardonner, on est allé dans une bijouterie et il a voulu m'acheter une bague parce qu'il m'aimait et que du coup, il était très désolé d'avoir fait ça. J'ai pas pris la bague parce que c'était la première fois que vraiment je me faisais insulter et que je ressentais une attaque. Et du coup, j'ai pas accepté, mais je suis quand même restée. De toute façon, il fallait que je rentre en France, donc j'avais pas trop le choix de rester avec lui pour pouvoir prendre l'avion. J'ai jamais vraiment voyagé avant, donc du coup, il le savait et il a utilisé ça pour justifier son amour. Et ça a eu en 3 mois et demi. Ça a vraiment été un laps de temps très très court, mais c'est très très rapide.
Next. Alors, donc, moi, donc, c'est Megan, je vous l'ai dit tout à l'heure. J'ai 29 ans et je suis maman de 2 enfants. J'ai une petite fille de 8 ans et demi, un garçon de 4 ans et demi. Mes 2 enfants ont 2 papas différents. Avec les 2 papas, j'ai vécu des relations de violence conjugale. Donc, j'appelle ce qu'on dit souvent avoir la poisse. La première relation a été très rapide avec le père de ma fille. Donc, je vais pas m'étaler dessus ce matin. La deuxième relation donc avec le père de mon fils a duré plus de 5 ans et demi. Et pendant 5 ans et demi, j'ai vécu des violences conjugales. Donc voilà, de toute façon, c'est toujours un peu le même mécanisme. Moi, il est arrivé du coup sachant ma relation précédente, en me disant que voilà, je méritais mieux, que je m'étais pas ce qui m'était arrivé avec le père de ma fille, voilà, qui serait là pour me protéger. Et comme un peu toutes les victimes, on tombe très vite dans le panneau parce qu'ils savent trouver les mots et dire exactement ce dont on a besoin. Donc 3 mois et demi après notre début de relation, il a emménagé chez moi pour me protéger de mon ex-conjoint. Et 3 mois après avoir emménagé chez moi, j'avais les premières phrases qui disaient « En fait, ce qui s'est passé avec le père de ta fille, tu le mérites puisque je te lève la main dessus aussi. Et de toute façon, tu ne mérites pas mieux que ça. » Donc ça a été au début des violences verbales, des violences psychologiques, du rabaissement. Je pense que c'est même pas imaginable à quel point on peut être abaissé dans ces situations-là. On perd complètement confiance en nous. Et puis voilà, ça commence par une bousculade, une claque. Et puis, 5 ans et demi, ça a fini au coup de poing, au jeté de couteau, aux étranglements, coup de pied, tout ce qui est possible. Que ça monte très très vite. Entre-temps, j'ai eu du coup mon fils. Souvent, on me dit, mais comment t'as fait pour avoir un enfant avec ce mec-là alors qu'il était déjà violent avant que je tombe enceinte? Et je trouve que c'est important parce que t'en as pas parlé, mais les femmes de victimes de violences conjugales osent rarement en parler, mais il y a aussi les violences sexuelles. Mais en tant que femme dans le couple, on se dit que y a le devoir conjugal, qu'on doit subvenir aux besoins, même si on n'en a pas envie. Et en fait, même quand moi je sais qu'après la séparation et après un dépeuplement, on m'a posé la question de savoir comment ça se passait au niveau sexuel. Et je dis, tout se passait bien. J'ai même dit, je crois que c'était le seul moment où tout se passait bien. Et en fait, après le recul, je me suis dit, en fait, non, j'en avais pas envie. J'avais pas envie de tout ce qui se passait. Et pour amener au fait que, voilà, moi, du coup, j'avais une fille d'une première union. Lui m'a reproché régulièrement d'être égoïste parce que je ne voulais pas d'enfant avec lui. Et à force de l'entendre plusieurs fois pendant plusieurs mois, on se dit qu'en fait, effectivement, je suis peut-être égoïste parce que je veux pas d'enfant et lui donner un enfant. Donc voilà, ça travaille psychologiquement. Et puis finalement, il a pris rendez-vous chez ma sage-femme pour moi. Il m'a accompagnée chez la sage-femme pour que je fasse retirer mon stérilet. Donc en fait, il ne m'a pas demandé mon avis devant la sage-femme. J'ai pas osé dire que j'étais pas d'accord parce que je savais que sinon j'allais me faire défoncer la gueule en rentrant. Donc je me suis fait enlever mon stérilet, donc je suis tombée enceinte. J'ai attendu plusieurs mois, 2 ou 3 mois avant de lui annoncer. Ces 2 premiers mois de grossesse, j'en étais finalement contente parce que devenir maman, c'était mon enfant, j'allais donner la vie. Et à partir du moment où je lui ai annoncé, je l'ai dit beaucoup cette semaine, mais je suis devenue une mère porteuse. Je portais son fils et j'étais là juste pour faire grandir cet enfant, en fait, dont il rêvait. J'ai du coup pas créé de lien avec mon fils tout le long de cette grossesse. J'ai pu en créer par chance après, parce que j'ai réussi à imposer l'allaitement, et c'est comme ça que j'ai créé un lien avec mon fils après. Et vraiment, je pense, pour moi, malgré les coups, ça a été l'étape la plus compliquée de ma vie. Et donc voilà, on s'est séparés, ça fera 2 ans, fin janvier. J'aime bien dire que je me suis séparée de fait, parce que en fait il y a eu une scène de violence très intense où mes enfants étaient présents. Mes enfants hurlaient que ça s'arrête. Malheureusement, ils ont été présents trop souvent. Aujourd'hui, ils en bavent beaucoup. Psychologiquement, c'est très compliqué. Donc en fait, j'ai décidé ce jour-là, j'ai saisi l'opportunité où, après 2 heures et demie de violence physique, il a eu un petit remords, un peu de culpabilité. Il a emmené les enfants au magasin du coin voir petits animaux à l'animalerie. Parce qu'ils s'étaient rendu compte qu'ils étaient un petit peu tristes. Ça faisait 2 heures et demie que les enfants hurlaient et pleuraient en me voyant. Et donc à ce moment-là, en fait, j'ai pris la deuxième voiture et je suis partie. Je suis partie sans mes enfants. Je lui ai laissé donc ma fille qui n'était pas la sienne et mon fils. Je me suis réfugiée chez quelqu'un de ma famille, chez qui je suis restée plus de 2 heures et demie à pleurer, à constater qu'en fait qu'il fallait que je récupère mes enfants et que je ne pouvais pas y retourner. Et puis j'ai eu ce déclic de me dire que de toute façon la seule solution c'était d'appeler les gendarmes. Donc j'ai appelé les gendarmes, je suis tombée sur 2 gendarmes géniaux qui m'ont accompagnée vers un dépôt de plainte, qui ont fait le nécessaire pour récupérer mes enfants. Et ça a été le début d'un long combat, mais le début d'une libération aussi. Comme je disais tout à l'heure, les enfants en bavent actuellement. Moi, j'ai eu une chance, c'est que du coup, il a été en garde à vue, il a été déféré, donc ça s'est passé un dimanche, et il a été jugé le jeudi, donc ça a été très rapide. Donc j'ai été protégée physiquement très rapidement. Malheureusement, c'est que l'emprise, quand elle est là, elle continue. Et même en étant incarcéré, il arrivait à prendre contact avec moi. C'est hyper compliqué. Et puis, c'est un combat sans fin, surtout quand il... Encore plus, je pense, quand il y a des enfants. Parce que en France, les enfants ne sont pas plus protégés que ça, concernant les violences conjugales. Il y a une interdiction de rentrer en contact avec moi qui se termine là au mois d'avril. Donc, de fait... En quelques années, la loi a quand même évolué parce que le temps de l'interdiction de rentrer en contact, il n'avait plus son autorité parentale. Malheureusement, en avril, il la récupère. Donc au mois d'avril, il va falloir que je reprenne contact avec lui pour une décision prise pour un enfant. Ouais, c'est inconcevable parce que je ne vois pas lui adresser la parole. Donc voilà, c'est des démarches judiciaires pour les enfants, pour les protéger au maximum régulières. On a l'impression que par moments, on se dit « mais ça s'arrête jamais ». Et en fait aussi, il y a des moments d'accalmie et petit à petit tout s'arrange et on arrive à s'en sortir. Et voilà pour une petite histoire.
Moi je me suis présentée tout à l'heure, c'est Barbara. Moi ça a commencé, c'était en novembre 2018. J'ai rencontré, alors moi mes termes c'est pas le papa, c'est le géniteur de ma fille. Voilà, ou mon bourreau. Mais je vais en parler en tant que géniteur de ma fille. Je l'ai rencontré en novembre 2018. À savoir que j'ai fait fort, moi, parce qu'il était incarcéré. À ce qu'il me disait, pour des vols. Donc rien de bien méchant, c'était un monde qui était complètement inconnu pour moi, la prison, tout ça, c'était... Bon, je me suis dit, bon, peut-être que en France, la justice a deux vitesses. Bon, je le crois. Septembre 2019, il sort de prison. Je vais le chercher, je lui achète une moto. Il vient à la maison. Un mois après, je me retrouve dans la cage d'escalier à me faire beugner, à me faire étrangler jusqu'à ce qu'il me décolle du sol et qu'il me lâche comme je sais pas quoi. Parce que j'avais fait une blague qui l'avait vexé devant mon frère. Avant tout ça, ça avait commencé les justifications. Donc il fallait que je lui envoie les photos pour lui faire voir ce que je faisais, si je travaillais pas, où j'étais, avec qui j'étais. Il a fallu que je démissionne parce que je travaillais avec un homme. Et puis après, ça a été la famille. Après le cadre de travail, ça a été la famille. Oui, mais ta sœur, elle est folle, elle raconte des conneries, elle veut se faire mon frère pour foutre la merde. Et ta mère, l'éloignement, du coup, m'a isolée dans cette maison où on était. Pour contrôler quelqu'un, c'est plus simple. Et puis arrive le moment où... Alors lui, il voulait pas d'enfant pour avoir un enfant parce qu'il a déjà une grande fille, biologiquement parlant. C'est juste que bah, c'est encore plus facile d'avoir le contrôle sur quelqu'un, surtout sur une femme, quand on sait déjà qu'elle est mère et comment elle se comporte avec son enfant. C'est bien plus facile de l'avenir quand on a un enfant avec. Donc ben, pas le choix, enfin, si je peux dire comme ça. Il est arrivé au mois de septembre 2019. Début décembre 2019, j'étais enceinte. Ça faisait déjà 2 mois qu'il me frappait. Donc les violences étaient devenues physiques aussi, en plus du psychologique, parce que les insultes avaient déjà commencé depuis un petit moment. Et puis bah, ça ne l'a pas ralenti dans les coups physiques non plus, hein, même pendant la grossesse. Une petite vaillante qui s'est bien accrochée parce qu'elle a mangé cher. Et puis jusqu'au jour où j'ai jamais réellement fermé les yeux, mais il m'assommait tellement tous les jours, autant physiquement que psychologiquement. Là j'ai repris 10 kilos, je sais pas si vous vous rendez compte, je suis partie d'avec lui il y a 2 ans et demi, j'en faisais 46. J'étais un squelette sur pattes. Quand certains de ses collègues venaient à la maison, c'était ouais ta meuf la tox. Non, mais j'en avais l'air, sincèrement. Blanche comme mes fesses, si je puis dire. Mec comme un clou, je ressemblais plus à rien. Parce qu'il me rongeait, il me bouffait. J'ai ma famille qui a quand même alerté les forces de l'ordre. Sur le moment, j'étais pas prête. Donc je me suis retrouvée devant un OPJ dans la gendarmerie d'Argentonnet, pour vous dire. Et là, je lui ai dit non, il n'y a rien. J'avais ma petite avec moi. Ils étaient 15 gendarmes à la maison, juste avant de m'emmener. Et quand j'ai ouvert la porte de la voiture pour mettre la petite dedans, en fait, il s'est approché de moi, il est regardé en souriant et il m'a dit « touffe ta gueule, je te crève ». Ben, j'ai fermé ma gueule. Voilà. J'ai fermé ma gueule et puis ben, je suis retournée à la maison. Ça a duré encore comme ça 6 mois, jusqu'au soir où j'ai eu, entre guillemets, l'opportunité de partir. On était loin de la maison, on était chez des amis. Et ce soir-là, c'est parti en sucette, il est parti au milieu de la pampa, je suis rentrée toute seule à la maison avec les 2 filles et un copain avec qui on était. Il s'était procuré une arme. Donc bah, j'ai pris les chiens avec moi dans la cuisine, j'ai chargé l'arme en attendant de partir parce que je savais que s'il arrivait avant que je sois partie, c'était lui. Il me laisserait aucune chance, donc je lui en aurais laissé aucune. Voilà. Et ça, c'était le 28 février 2021. Depuis, il a été incarcéré, il a fait sa peine en mandat de dépôt quasiment. Parce qu'il a été jugé cette année le 9 février 2023 exactement. Il est arrivé au bout de sa peine qu'ils m'ont donnée. Il a pris 3 ans de prison, 2 ans ferme. Des mesures d'éloignement aussi, une interdiction de contact pendant 3 ans, une petite chose comme ça, là, qui existe depuis 15 ans en Espagne, mais qu'on a que depuis 2-3 ans en France, malheureusement. C'est un... Alors moi j'ai l'unité mobile et lui à la cheville, il a un bracelet anti-rapprochement. Donc pendant 2 ans, il n'a pas le droit de m'approcher. S'il essaye lui de partir sans son unité mobile ou de m'approcher, bah, j'ai les gendarmes ou la police qui viennent régulièrement à la maison. Mais au moins on est protégé. Et par rapport à notre fille, moi qui ne l'ai pas vue depuis ces 6 mois, le juge aux affaires familiales lui a retiré son autorité parentale. Puni, il ne sera jamais puni à hauteur de ce qu'il a pu me faire à moi personnellement ou de ses ex, parce que je sais qu'on a toutes subi les mêmes choses, si ce n'est plus ou moins, hein, parce que ça a été loin des fois. J'étais la première à déposer plainte, mais bon, moi je sais que maintenant il ne fera pas de mal à ma fille en tout cas. Parce que même sur les enfants, sur celle qui est la sienne, il y a eu des menaces avec le fusil, il y a eu des menaces si elle devenait lesbienne, entre autres. Et ma grande, parce que j'ai une grande aussi, qui est issue d'un premier mariage, il l'a clairement traumatisée. Voilà. Aujourd'hui, moi, mes filles, elles sont protégées, elles sont en sécurité, et moi aussi.
Les victimes, parfois même sans s'en rendre compte, subissent différentes formes de violences, psychologiques, physiques, économiques, sexuelles. Ces violences touchent également les hommes. Ces points ont été abordés lors de la conférence.
La dépendance affective. Après, on perd sa liberté. Perdre sa liberté, sa manière de discerner. La victime se retrouve dans l'isolement social, familial, avec une incapacité à vivre sans l'auteur. La domination ensuite sur la victime, sa manière de dominer. Et ce qu'on a pu décrire, c'est les différentes formes de violence. Tu as parlé violence économique, violence administrative, il te prend les papiers. Et on a 2-3 hommes, victimes de violence, qui viennent pousser la porte du LEAO. Depuis cette semaine qu'on fait de la sensibilisation, j'ai eu 2 personnes qui sont venues à moi, qui étaient des hommes. Enfin, une femme qui disait que c'était elle qui était l'autrice de la violence conjugale et un homme qui est venu me dire qu'il était victime. Alors oui, il y en a, je pense, moins, c'est sûr, et qu'il y a beaucoup plus de femmes victimes, mais oui, il y en a, et eux aussi, il ne faut pas qu'ils hésitent à pousser la porte.
Après, il faut imaginer que déjà, nous, on est dans une forme de honte en étant minorité, on est dans une société patriarcale, donc déjà, la femme, elle est mise à une hauteur qui n'est pas la même que l'homme. Alors imaginez un homme qui est censé représenter l'autorité, le charisme, tout ça. Il vient, il pousse la porte, il dit qu'il a été frappé, rabaissé, humilié par sa femme. Ben, les autres gars vont le regarder, ils vont dire « bah t'es qu'une victime, t'as rien à faire, voilà ». Et il y a cette honte, on ne devrait pas avoir honte, mais on n'a pas le fin.
La société fait que c'est plus compliqué.
Ouais, c'est ça. Donc les hommes ont plus de mal à exprimer ce genre de choses.
Les violences conjugales ne doivent pas être un sujet tabou. Et il faut absolument que les victimes se confient et parlent. Cette conférence a pour but de sensibiliser les jeunes à ce fléau et délivrer à la fois un message de prévention à l'égard des lycéens, mais également un message d'espoir pour les victimes.
En quelques mots, quel message voudriez-vous faire passer au public ?
Alors, moi, au niveau du public, je suis plus à même de rencontrer les enfants victimes et témoins des violences conjugales, de leur dire, d'expliquer les choses, de venir parler, raconter. Et c'est ensemble qu'on arrivera à lutter contre ce phénomène.
On dit souvent, dans le cas de violences conjugales, qu'il faut partir à la première claque. Moi, je voulais surtout vous faire comprendre qu'il y a tout un mécanisme d'emprise qui se met en place avant et justement vous faire repérer ces petites choses qui fait que voilà, ça commence et pour pas que vous ayez à le vivre et que vous le repériez rapidement aussi dans vos situations personnelles et montrer que ben, ça existe partout, que c'est pas juste à la télé et surtout qu'il y a toujours moyen de s'en sortir et que c'est pas une fatalité.
À bientôt pour un prochain podcast sur JM Radio.
Pour de la musique et de l'info, on écoute tous JM Radio.